Salut les joueuses, salut les joueurs, on est toujours à Débrezeler des Jeux édition 2018 à la salle de la Bourse et place de la Bourse. Je suis toujours avec Père Castor, salut Père Castor.
Salut Fabien.
Et toujours sans notre président qui décidément ne revient plus, fidèle à sa réputation de faire des promesses sans jamais les tenir. Je le dis parce qu'il n'est pas là. Et avec nous pour poursuivre cette série d'interviews, c'est Benoît de la boîte de jeux.
Salut.
Alors, t'as été interviewé en décembre, c'est ça? C'était à l'épisode de décembre, le 92, je crois. Hein.
Peut-être.
Ouais.
En tout cas, c'était dans la saison 8.
Et c'était l'équipe parisienne qui est bien sûr beaucoup moins sympathique que l'équipe strasbourgeoise.
Oui,
tu vas vite t'en rendre compte. Ouais, et surtout beaucoup moins pertinente dans ces questions. Alors, comment se passe ce début de festival?
Bah, ça se passe bien. Après, là, c'est toujours des festoches très sympas. Voilà, on rencontre du monde, les jeux ils sont bien accueillis, donc c'est toujours des moments d'échange avec les joueurs qui sont cool. Moi, j'avoue qu'à titre très personnel, le festival et le côté animation, c'est pas mon truc. Je suis pas très bon en animateur, donc c'est vrai que je déserte régulièrement le stand en laissant.
Il y a des gens pour t'épauler. Ouais.
Voilà, les auteurs. Il y a Fnup, là, l'auteur de 1, qui fait ça avec passion et très très bien. Et puis mon collègue Benjamin, qui anime Neta Tanka, qui fait ça aussi très bien. Bon, après, quand il faut, je vais donner un coup de main.
C'est ça, mais tu râles un peu quand même.
Non, j'en râle pas.
T'insultes pas les joueurs?
Non.
Ah, tu devrais. Donc là, ouais, effectivement, la boîte de jeu, on vous avait reçu. Bah, il y avait un qui se préparait, qui est sorti depuis. Mmh.
Il y avait Ilos qui venait de sortir.
Exact.
Ça devait faire, oui, un mois ou quelque chose comme ça qu'Ilos était sorti. Ouais, un qui se préparait. On avait dû parler de Clash of Rage et peut-être de Neta Tanka.
Yes. Et bah, du coup, ouais, là, depuis, même si on t'a reçu il y a que quelques mois, depuis, il y a un qui est sorti, qui a plutôt bien marché. Il a été dans les tops des ventes Philibert, ce qui est un des indicateurs, pas le seul, mais voilà, ouais, c'est satisfaisant.
Oui, c'est un jeu, bah, on avait un volume à peu près comparable à ce qu'on fait d'habitude et il est tombé en rupture distributeur. Donc, c'est pas les ruptures boutiques, parce qu'il y en avait qui avaient fait du stock, etc. Mais au bout de 15 jours, quelque chose comme ça. Donc, c'est toujours des succès qui sont difficiles à anticiper, mais qui font plaisir et puis à la fin on se dit ah le jeu là les nouvelles versions elles arrivent mi-juillet donc c'est toujours un creux mais bon ça visiblement ça se passe enfin ça devrait bien se passer donc on est voilà c'est toujours un plaisir d'avoir un jeu qui fonctionne bien entre temps donc bah Ilo ça a bien fonctionné aussi puis notamment à l'export puisqu'à l'époque on commençait l'export d'Ilos donc c'est quand même là maintenant voilà un jeu qui a vraiment bien marché à l'export pour des choses qui vont sortir dans différents pays fin d'année, début d'année prochaine. Voilà, le reste des choses suit son cours, les développements des projets, Neta Tanka qui arrive sur Kickstarter.
Non, on va en parler aussi après, mais c'est vrai que un, du coup, lui n'est pas passé par Kickstarter.
Non.
Et ça revenait à un format plus traditionnel au niveau du circuit éditeur, distributeur, boutique. Les distributeurs, toujours chez BlackRock.
Oui.
Vous êtes sur leur stand là d'ailleurs, je crois.
Ou non,
vous
avez... non, on est en face. Mais
ouais, vous êtes dans la zone de BlackRock. Mais vous avez pris un stand à vous.
Oui.
Ok. Ouais. Est-ce que n'ont pas fait tous les éditeurs distribués par BlackRock?
Non. Après, ça dépend combien on veut de table et tout. Enfin.
Bien sûr. Ouais. Et donc oui, donc on a parlé de un que vous présentez toujours. Donc Fnup est là.
Oui.
Pour le présenter, plus sous le nom d'Inavi, c'est le fameux proto.
C'est ça.
Et ça, ouais, ça. Combien de temps présenter un jeu comme ça après sa sortie?
Combien de temps on le présente
en salon? Ça prend de la place, ouais, sur une table.
Moi, j'ai tendance. On essaye de présenter au maximum les jeux pendant. C'est variable, c'est toujours compliqué, mais 6 mois, 1 an. Et après, ça dépend aussi du salon où on va. C'est-à-dire que là, on présente un état tanka parce qu'il y a la campagne, mais c'est le type de jeu qu'on présente assez peu sur salon. Des jeux qui durent 1h30, 2h avec l'explication de règles. Il y a des gens qui aiment bien essayer.
Mais il y a peu de turnover sur les tables, etc.
Voilà, mais c'est pas vraiment pertinent de les montrer sur les salons. Donc là, on le montre parce qu'il y a la campagne, mais c'est des 1, des Ilos, des Grumph. Même Grumph qui est sorti il y a plus longtemps.
C'est un jeu de festival, mais c'est peut-être un peu tard maintenant.
Tin Min To Kill, c'est un jeu de festival, oui et non, parce que c'est un jeu qui a une partie un peu exigeante et qui, sur son look, etc., peut dérouter des gens en festival, même si on l'a beaucoup montré. Et après, c'est un jeu très fatigant au festival, Tin Min To Kill, parce que tu l'expliques pendant 10 minutes, un quart d'heure. Les mecs jouent 10 minutes. Tu l'expliques 10 minutes, un quart d'heure, ils jouent 10 minutes.
Ouais. En tant qu'animateur, ouais.
Voilà, bah après, c'est.
Ouais, avec Nota Tanka, là, t'es tranquille, après, ils sont partis.
Ouais. Ça, c'est bien. Mais après, j'aime bien qu'on surveille bien les tables. Je trouve que c'est. Comme sur festival, on est un peu fatigué quand on explique au bout d'un moment. J'aime bien que l'animateur, il vérifie que ça se passe bien, que les joueurs comprennent bien les règles. Je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'on t'explique un jeu, que tu le comprennes, enfin, que tu rates une règle et qu'après, tu fais toute ta partie en te comprenant pas bien. Puis
et sur Internet, t'es là et tu dis, mais c'est de la merde et tout, il y a ça qui marche pas. Et t'es là et tu dis, mais oui, mais c'était pas comme ça qu'il fallait jouer. Ouais, donc garder quand même un œil justement. Peut-être pas forcément pour éviter le backlash sur Internet, je pense, c'est pas.
Mais
la partie se passe bien, quoi.
Oui, puis que les gens soient contents, quoi. Ils viennent jouer à des jeux, autant qu'ils jouent avec les bonnes règles. Après, ils ont le droit d'aimer ou pas aimer.
Voilà, mais sur des bonnes bases, quoi.
Voilà.
Sur des bases factuelles.
S'ils ont une question, ils trouvent quelqu'un pour avoir une réponse autour du stand. Après, donc comme je te disais, bah les jeux, on présente un peu en fonction des salons, en fonction aussi on se met d'accord avec BlackRock. Des fois, ils me disent ah bah là, on aimerait bien mettre l'accent sur ce jeu-là parce que ça a bien marché dans cette boutique, etc. Enfin dans ce coin-là. Donc voilà. Donc en ce moment, normalement, on devait avoir Montana qu'on a en localisation, un jeu de White Goblin Game qui va sortir là ce mois-ci.
L'auteur est
Rudy Dorn.
Ouais, Rudy Gardorn, ouais. Connu des joueurs, ouais.
Mais Montana, on l'a pas reçu, du coup, on l'a pas mis. Voilà.
Et donc, Netatanka, effectivement, le Kickstarter qui s'est lancé il y a une semaine par
quelques
là,
jours,
une semaine et demie, je sais plus.
3-4 jours, ouais,
3-4 jours. Et lancer le Kickstarter, venir en festival, est-ce que c'est une bonne idée, l'enchaînement comme ça des événements? Même si maintenant, t'as quand même plus l'habitude des...
Bah, on est un peu plus nombreux aussi. C'est-à-dire qu'on est 3 salariés, plus là, il y a un community manager sur la campagne.
Donc, t'es pas obligé de suivre en temps réel ce qui se passe.
Là, là c'est eux qui suivent. J'ai le week-end, en plus, j'ai pas les salariés, donc c'est le community manager.
Mais qui est une personne externe à l'entreprise.
C'est un prestataire. Donc, c'est Grégory Oliver qui est l'auteur d'Outlive, qui fait ça pour nous. Voilà. Après, on choisit pas toujours les dates, tout ça. Donc là, on voulait le lancer là et là, on enchaîne ce salon. Après, moi, je repars et puis il y a PEL à la fin. Donc c'est vrai que c'est un peu sport, mais c'est rigolo.
Et puis au niveau de justement Netatanka, c'est donc un jeu d'Hervé Rigal qui a fait Shakespeare, qui est un très bon jeu par ailleurs. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Comment se passe le sourcing justement? T'avais joué à Shakespeare parce qu'il a pas fait d'autres jeux que ça, mine de rien.
Non, en fait, alors il faut voir que Hervé Rigal, c'est un des actionnaires de BlackRock.
Yes.
Voilà, historiquement, même si il a pas de part dans, enfin il a pas d'activité aujourd'hui avec BlackRock,
mais il fait partie des actionnaires.
Voilà. Et du coup, je l'avais vu à Ludimania, donc il y a un festival à Dijon là où on a nos locaux. Il y a 2-3 ans, et il m'avait montré son proto comme ça parce que il était venu à la maison avec Johan de BlackRock. Il m'avait montré son proto et j'avais beaucoup aimé. Il s'appelait Tatanka, le jeu, voilà. Et, de fil en aiguille, je lui ai fait un retour en lui disant, moi, je pense que, ton jeu était cool, mais peut-être tu pourrais voir ça, parce que ça, c'était sous-exploité, etc. Et voilà, et après,
Je te coupe juste pour tout ce qui est le travail d'éditeur que tu mènes, etc. J'invite tes joueurs à écouter l'émission de Proxy Jeux, où vraiment tu expliques que pour toi, c'est aussi le rôle d'éditeur, que c'est pas juste, ok, je te prends ton jeu, et puis je te l'édite, je te produis. Il y a vraiment un travail aussi de développement, et de, parfois, bras de fer, amical avec l'auteur pour dire ok là c'est peut-être pas bon et
c'est du travail de discussion, c'est pas de la négociation, mais on doit discuter. C'est-à-dire il arrive avec son jeu, Hervé par exemple, son jeu, il y avait des choses qu'il aimait qui étaient très thématiques parce qu'il l'avait construit autour des Indiens d'Amérique,
donc il était venu avec le thème directement, et la méca.
Et puis donc il avait beaucoup de choses où moi je lui ai dit mais mécaniquement il faudrait qu'on bouge un peu ça, etc. Et des fois ça, par rapport à la façon dont il avait construit son jeu, ça lui, au début par exemple, un exemple très simple, c'est que le jeu il était en ressources limitées parce que on devait pas détruire les réserves de bois, etc.
Thématiquement, ça se tenait.
Voilà, ça marchait, sauf dans quelques cas où ça pouvait créer des parties très frustrantes si quelqu'un stockait des ressources et les utilisait pas, ou faisait que en récolter, et que du coup je lui ai dit, mais cette règle, elle est thématique, mais en fait, elle est pas très intéressante mécaniquement, elle crée des blocages.
Ouais, elle peut casser les parties, quoi.
Après, c'est de la discussion, et je pense qu'on se fait suffisamment confiance, on apprend à travailler ensemble petit à petit, et pour qu'on s'écoute, et qu'on entende les points de vue de chacun. J'écoute aussi ce que me dit Hervé, des fois, sur des choses qui vont me sembler intéressantes, et lui, il va avoir plus de mal. Moi, mon but, c'est pas de faire un jeu qui lui plaît pas. Donc, c'est qu'après, on dit, ok, on va retravailler, on va revoir des choses, etc. Avec Hervé, ça s'est vraiment super bien passé. Donc j'espère qu'il est content lui aussi.
Et le choix de partir sur Kickstarter pour ce jeu, c'est parce que t'avais le sentiment que y avait la possibilité de mettre des stretch goals en place ou de continuer son développement ou proposer du matos un peu premium?
Alors il y a différentes choses. Il y a qu'on est sur un type de jeu qui est pas toujours simple à placer en retail en sortant de nulle part, c'est-à-dire du jeu d'ouvrier.
C'est quel type de jeu? C'est quand même un jeu, tu l'as dit, les parties d'une heure et demie, un peu costaud. Ouais.
C'est du placement d'ouvrier. Après c'est marrant parce qu'il y a ceux qui vont trouver ça très dur, et puis ceux qui vont me dire c'est presque familial parce qu'ils ont l'habitude de jouer à un Tricarion ou des jeux beaucoup, ça dépend où on se positionne, ça reste du gros jeu pour le public des boutiques spécialisées.
C'est plus complexe que un par exemple.
Oui c'est plus complexe qu'un. On pourrait le mettre dans quelque chose au niveau d'Outlive. Moi, par rapport au retour que je vois des joueurs, je pense que c'est plus compliqué à appréhender qu'Outlive, mais ça veut pas dire qu'à jouer c'est plus simple. C'est plus compliqué. C'est à peu près le même niveau de difficulté,
mais d'appréhension
qui peut être plus compliqué pour certains joueurs, puis il y en a qui vont dire non, etc. Voilà. Et donc, ce type de jeu, c'est pas toujours simple à vendre en boutique en arrivant.
C'est plus compliqué qu'il y a 10 ans, tu penses? Même si t'étais.
Comment c'était il y a 10 ans? Après, il y a 10 ans, il y avait surtout moins de sorties.
Et quelque part, il y avait
moins de joueurs.
Je suis pas sûr qu'il y avait plus de jeux de ce type-là, dans l'absolu, mais.
Non.
La proportion de jeux costauds par rapport
à l'ensemble. Non, en proportion, mais en nombre.
Oui, je parle en proportion. Ouais.
Mais voilà, après, c'est aussi qu'il y a une il y a un nombre d'offres qui est incroyable. Aujourd'hui, on peut aussi acheter les jeux quasiment du monde entier, alors que peut-être qu'à l'époque, c'était plus compliqué d'avoir des jeux en import. Donc ouais. Voilà.
En tout cas, du coup, aujourd'hui, c'est compliqué pour un jeu de ce format-là de se trouver vraiment une place en boutique.
Bah, je sais pas si c'est compliqué. En tout cas, ça peut être une difficulté. Mais la principale raison du Kickstarter, là où je voulais en venir, c'est que c'est pas ça. C'est une des raisons, c'est que ce type de jeu, on arrive à avoir un public sur Kickstarter, sur l'Eurogame. On a vu Gugong là, qui a bien marché.
Outlive
avant ça, oui. Donc, mais voilà, il y en a tout un tas. Donc, il y a un public qui le recherche et qui après va être prescripteur dans son pays, parce qu'au-delà de la France, nous on a l'international. La France représentant que 30% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, et donc ça permet de le montrer à des distributeurs à l'étranger et d'avoir des demandes. Et puis, on va pas se mentir, aujourd'hui, le circuit, la façon dont on paye les jeux, enfin les répartitions des marges sont, enfin c'est pas du tout une critique de ce système-là, c'est juste qu'il est fait comme ça. C'est compliqué de tirer des salaires en tant qu'éditeur dans le circuit classique, même si on l'abandonne pas, même si on fait des jeux pour le circuit classique, même si on les sort tous en circuit classique derrière les Kickstarter.
Mais t'as dans le cas sortir en boutique aussi.
Ouais, tous et en tout cas tous jusqu'à aujourd'hui. Après, faut jamais. Ouais, oui. Mais et d'ailleurs, c'est nos meilleures ventes en boutique, les jeux qui ont fait un Kickstarter avant, c'est ce qui marche le mieux, même en boutique française.
Ce qui pourrait être paradoxal d'un côté. Ouais.
Oui, mais en fait, c'est que ça, d'un coup, t'as nombre de personnes qui reçoivent le jeu, qui en parlent, et ça donne envie à d'autres, et puis voilà.
Blood Rage aussi, par exemple, si on prend un jeu d'un autre éditeur, a super bien marché en boutique après son succès sur Kickstarter, parce que le jeu est bon.
Oui. Après, évidemment, quelle est la qualité du jeu, après, voilà. Après, on sait pas s'il n'est temps. Enfin, moi, je trouve qu'il est bon, mais je suis pas le mieux placé pour en discuter. Mais, et puis nous, c'est quand même un endroit où, certes, c'est beaucoup plus de travail, parce que souvent, on prend Kickstarter, c'est plus de marge, pour les éditeurs, mais c'est aussi beaucoup plus de travail, parce que, tu fais toute la marge, mais tu fais tout le travail de le vendre, de le SAV, la logistique, le machin, le truc, la communication, bref. Et du coup, mais c'est quand même comme ça qu'on arrive à tirer suffisamment pour payer les salaires qui nous permettent de faire le reste des jeux. Un jeu comme Outlive, si on additionne le Kickstarter plus derrière le retail, c'est ce qui permet de faire payer 3 salaires sur un an pour la société.
C'est un peu aussi comme ce qu'on dit dans d'autres médias, c'est-à-dire tu fais des, même si ça veut rien dire sur la qualité du produit, mais tu fais par exemple du blockbuster pour après produire des films indés qui vont se voir peut-être, qui vont être distribués dans 5 salles en France, mais qui ont le mérite d'exister.
Et qui n'auraient pas pu sans
le. Voilà, c'est un peu le.
Oui, et ouais, voilà. En fait, moi, je suis pas dans une dichotomie Kickstarter boutique. Enfin, moi, d'ailleurs, je trouve qu'on peut se nourrir l'un de l'autre. On a mis en place un partenariat avec les boutiques françaises.
Depuis le début, depuis Outlive.
Ouais. Et du coup. On peut réussir des choses, ça les aide à vendre des jeux aussi, comme je te disais, on a des bonnes ventes sur les Kickstarter quand ils arrivent en boutique. Maintenant, il faut aussi comprendre que nous, moi je gère une entreprise, mon premier truc c'est de payer mes salariés qui ont travaillé pour faire le jeu. Je peux défendre tous les autres secteurs, etc. Et je suis pour que tout le monde arrive à tirer un salaire, mais le premier truc que je regarde c'est que chez nous, tous les gens puissent se payer. Il y a quand même beaucoup d'éditeurs aujourd'hui qui ne tirent pas de salaire de leur activité, il faut quand même le rappeler, et que... Je le dis, peut-être un jour ce sera différent et j'aimerais que ce soit différent, mais c'est grâce à Kickstarter qu'on paye les salaires des gens de la boîte de jeux.
D'accord. Et les payer correctement aussi.
Oui.
Parce que tu en avais parlé dans l'interview, pour le coup, en étant assez transparent là-dessus.
Oui, oui.
Il s'agit pas non plus de les payer au SMIC et qu'ils aient du mal à vivre à la fin du mois.
Chacun paye.
Oui, bien sûr.
Je me dis, il faut quand même donner un salaire minimum parce qu'on demande des compétences d'anglais, de bilingue, de machin, de la disponibilité des choses. Voilà, j'ai l'impression que ça, il faut quand même rémunérer les gens, quoi.
Et au niveau de la campagne, là, t'as une offre de frais de port gratuit?
Ouais, en fait, on a fait une analyse assez simple. C'est qu'aujourd'hui, quand tu vas sur Internet acheter un truc au-delà du jeu de société, t'as pas envie de payer de frais de port. Moi, en fait, je m'en suis rendu compte. C'est hyper con. J'achète du vin sur Internet. Et à un moment, je me suis rendu compte que j'avais, même quand je voulais acheter 10 bouteilles, en fait, j'avais tendance à en acheter 20 si on m'offrait les frais de port derrière. Alors que c'était 6 euros. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, oui, plus personne ne veut payer de frais de port. On a regardé un peu les analyses qui traitent de ça.
Merci Amazon.
Et puis, on le voit aussi sur Philibert, les gens qui vont payer plus de 60 euros parce que ça enlève les frais de port. Enfin, pour prendre un exemple du jeu de société.
Et du coup, ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on s'est dit, et donc il y a plein d'analyses qui montrent que les gens préfèrent rajouter un produit à leur panier que payer des frais de port. Du coup, j'ai dit, ok, moi je veux bien faire des frais de port gratuits. Déjà, faut voir que des frais de port, quand on affiche 5 euros, ça ne nous coûte pas du tout 5 euros. Tout le monde pense que c'est gratuit les frais de port aujourd'hui, à cause, je ne sais pas, à Amazon, entre autres. Mais en fait, c'est très cher, c'est très très cher. Et c'était beaucoup de caisses, je pense.
Ouais, ça a fait mourir des entreprises.
Ouais, beaucoup de caisses se plantent à cause d'un ratage sur les frais de port. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, ok, bah, faisons un calcul pour voir à quel moment on peut offrir des frais de port gratuits sans augmenter le prix du jeu, en vendant le jeu au bon prix, en disant, bah, les frais de port, on les absorbe sur notre marge quand. Voilà. Et donc, là, ça doit faire 70% des pays, ça doit être pour deux boîtes. Ils commandent deux boîtes, il n'y a pas de frais de port. Et puis après, il y a trois boîtes pour les pays un peu plus éloignés et quatre boîtes pour les pays, notamment, ça doit être les pays où ça part en. Il faut connaître les envois, mais en poids volumique, c'est-à-dire que comme ça part par avion, même un jeu de 2 kilos, en fait, il se retrouve dans un carton à 7 kilos, et du coup, voilà.
Et est-ce que ça vient aussi d'un regard que, effectivement, parfois sur Kickstarter, il y avait des gens qui se regroupaient pour faire des achats groupés?
Ouais.
Parce que je sais qu'on voit souvent ça, Kickstarter qui prend ça pour qu'on fasse un achat groupé.
Mais tout à fait. Mais en fait, tu vois bien que dès que les frais de port, c'est un enjeu énorme de Kickstarter, et qu'en fait, dès que l'offre elle est bien en frais de port, souvent ça attire les gens. Et là, je me suis dit, ben voilà, à ce niveau-là, par rapport, donc on a fait des calculs, là, on peut proposer des frais de port gratuits, tout le monde y gagne, et on verra ce que ça donne à la fin. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui ont commencé à acheter deux boîtes, parce que en fait, au final, si je peux parler purement mercantilement, c'est que ils achètent une deuxième boîte pour pas payer le frais de port en l'offrant à quelqu'un ou en pensant la revendre plus tard, etc.
Mais la personne à qui ils l'offrent, elle a aussi acheté deux boîtes, et finalement, chacun se retrouve avec deux.
Après, c'est sur les caisses, on verra net à ton cas, mais j'ai l'expérience d'Outlive ou d'autres. Les gens qui achètent une boîte, ils la revendent sans trop de problèmes, au moins au prix qu'ils l'ont acheté.
Oui, voire plus.
Ouais. Souvent voire plus, mais je préfère dire au prix qu'ils l'ont acheté. Je suis pas trop pour la spéculation, mais la réalité, c'est que s'ils veulent le revendre, derrière, ils le revendent.
Et donc ça, net à ton cas, donc tu dis lancé il y a quelques jours. Aujourd'hui, c'en est à où?
Là, ça autour des un peu plus de 100 000.
Un peu plus de 100 000, sur combien demandé c'était?
Nous, on a demandé 30 000. Alors 30 après, 000, KS, ouais, voilà, tout le monde connaît le mécanisme. Bon, après, à 30 000, on l'aurait fait, mais voilà, donc on est à 110 000, je crois, un petit peu moins. C'est surtout le nombre de... Enfin, l'argent, c'est une chose, mais c'est le nombre de personnes qui commandent qui est vraiment important. Pour nous, en tout cas, comme indicateur, là, on est à un peu plus de 2000 backers. Donc, en 3 jours, ça représente un chiffre vraiment bon, en tout cas à nos yeux, parce que sur Clash of Rage, notre campagne précédente, on a fait 2300 backers sur la campagne.
Ouais.
Enfin, c'était pas le même type de jeu, etc., mais ni le même type d'offre. Mais
Vous avez des stats comme ça sur lui, il a pledgé ce jeu, il les a tous pledgés chez nous, ou bien il a pledgé Clash of Rage, mais pas celui-là, ou bien
on peut les faire. Alors je t'avoue qu'on les fait pas parce que il faut croiser des fichiers. Ouais. Ce que nous fournit Kickstarter comme données, c'est un peu chiant à utiliser. Ouais, voilà. Enfin, Kickstarter, c'est vraiment une plateforme qui est puissante, mais qui est, alors, je vais pas dire mal conçue, j'imagine qu'ils ont des contraintes, mais l'éditeur.
Pour le créateur, quoi.
Peut-être. L'éditeur de deux pages, il est horrible, mais vraiment horrible, c'est...
Est-ce qu'il y a encore du HTML code ou du BBC
non,
code?
Non, pas du tout. En fait, c'est pire que ça, c'est que t'as qu'une taille de police, ferrée à gauche.
D'accord.
C'est-à-dire, tu peux rien faire d'autre, t'as pas de centrage, pas de justifié, pas de ferré à droite, c'est tout ferré à gauche. Quand tu mets une image, ça saute une ligne avant, une ligne après, donc si t'enchaînes deux images, t'as 6 lignes de sauter. Voilà, c'est ce genre de truc, quoi.
T'as quand même une prévisualisation de ce qui va être généré avant de le
publier. Oui, t'as une prévisualisation, mais
tu croises les doigts.
Mais tu vois, si tu prends les pages qu'on faisait pour Outlive ou pour Clash of Rage, tu vois que c'est pas super. Si on est à Tanka, on a pris un autre parti, c'est tout faire en images, en fait. Le texte et tout, c'est tout monté, c'est que des images qui s'enchaînent pour pouvoir faire quelque chose de lisible, de joli, parce que sinon, c'est horrible, cet outil.
Et ça pose pas de soucis pour le référencement, parce que du coup, tu peux peut-être pas chercher avec les moteurs de recherche.
Non, le truc, il est balèze au niveau du titre, parce que tu peux mettre un petit pitch à ton jeu, donc tu mets les mots-clés dedans.
D'accord.
Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une seule ligne de texte sur la page, c'est quand on dit, si vous le prenez, vous avez les stretch goals avec. Donc quand les gens, ils partagent la page, c'est le seul truc qui apparaît en résumé, c'est un peu bizarre. Mais au final, la page, elle est plus jolie, et les gens comprennent mieux les offres qu'on fait.
Ouais, il y a une lisibilité.
Donc voilà. C'est plus que c'était la question, du coup j'ai un peu...
Non, c'était justement au niveau des différents paliers, si on pouvait avoir les données des différents utilisateurs, parce que ça peut être un indicateur de dire, lui il a pledgé Clash of Rage, mais pas Netta Tanka pour des jeux futurs. Quoi,
en
je veux
fait,
dire.
Principalement, on voit que les gens qui... Enfin, là, ce qu'on sent, on n'a pas analysé les données, mais c'est plutôt des gens qui ont pris Outlive qui vont sur Netta Tanka, là où ils sont pas forcément allés sur Clash of Rage, qui était un autre type de jeu.
Donc ça, c'est Netta Tanka, donc qui est en cours de financement participatif, qui à l'heure de l'interview est sans doute terminé, donc qui est plutôt bien parti. Hein.
Oui, très bien.
Donc qui est présenté. Là, t'as des retours de gens qui disent où est-ce qu'on peut l'acheter ou quoi, ou pas tellement?
Alors là, déjà, c'était une matinée, les parties durent 2 heures, mais on a fait tourner 4-5 tables, je dirais. La plupart, ils viennent en sachant ce qu'ils viennent essayer, c'est-à-dire qu'ils ont vu la campagne, ils ont lu sur un forum ou sur Facebook, ils viennent essayer le jeu.
Soit qu'ils ont pledgé pour valider leur pledge, soit éventuellement pour tester avant
c'est
de
ça.
Pledger.
Au niveau des règles, il est fini là ou tu profites encore des présentations festivals pour ajuster 2-3 trucs?
C'est fini. Par contre, là, ce qu'ils testent, c'est une version qui était en prototype, donc celle qu'on avait pour les ambassadeurs et les reviewers. Donc c'est vrai qu'avec des choses qui ont été libérées dans le KS, il est enrichi dans la version finale, même la version finale boutique d'ailleurs. Mais ce qu'ils testent, c'est le jeu comme il sera. il y aura pas d'ajustement fondamental. Après là, il y a des petits, faut chaque fois que je leur explique parce qu'il y a des petites erreurs sur ce proto là, mais voilà.
Et du coup, la livraison aura lieu assez rapidement après la campagne.
Bah la livraison,
et la production, etc.
En fait, ce qu'il faut compter, c'est que souvent les gens ils se disent ah le jeu est fini, on va l'avoir super vite. Mais en fait, déjà tu finis ta campagne fin juin, c'est l'été, donc tu vas faire ton PM, ton pledge manager qui permet de récupérer les adresses et de collecter les frais de port. Bah ça, il faut, tu vas pas l'ouvrir juste derrière la campagne, donc tu vas l'ouvrir le 15 juillet. Mais en fait, t'es obligé de le laisser jusqu'au 15 septembre à cause de l'été. Donc déjà il y a 2 mois. 15 septembre, t'as tes chiffres à peu près stabilisés de vente. Tu discutes avec tes distributeurs aussi pour voir s'il y en a qui veulent en même temps. Donc on va dire fin septembre, t'envoies ta prod et fin septembre. Après t'as la prod et tout, donc avant moi là j'ai annoncé mars, j'espère probablement livrer avant, mais mars je suis sûr, mais voilà, c'est quasiment impossible de livrer avant janvier, enfin sans bâcler des choses.
Ouais, c'est ce que un discours que t'avais déjà, c'est préférer annoncer plus tard ou un truc où t'es sûr, quitte à avoir une bonne surprise depuis le début, hein, depuis 10 minutes to kill, je me rappelle, t'avais déjà ce discours qui est arrivé 2 semaines en retard ou quoi, ou un truc comme ça.
Mais j'ai ce discours-là, mais c'est pas si simple. La Outlive, c'était 2 mois de retard, je crois. Clash of Rage, ça va être 3-4 mois. Ouais. C'est que à un moment dans tout ce parcours-là de prod, tu dépends d'autres personnes, d'autres choses, et puis même de toi-même. Des fois, tu pensais avoir le temps de faire quelque chose à un instant T, et puis t'es pris dans un autre activité. Et donc voilà, un chemin de prod, c'est long et ça prend du temps, et c'est pas toujours simple de l'estimer un an à l'avance, à se dire à ce mois pile, ce mois-là j'aurai le jeu.
Il y a tellement d'intermédiaires de possibilités, de potentialités de retard que. Et tu parlais des influenceurs, des reviewers, etc. C'est vrai que c'est un truc qu'on voit. Je sais pas si vous l'aviez fait avant. Non, c'est le premier truc. C'est-à-dire que c'est, je sais pas si c'est des exemplaires finis ou de pré-prod ou.
On fait fabriquer des protos par une entreprise qui fait des prototypes.
Yes.
Et ça coûte d'ailleurs un bras, parce qu'en fait, chaque proto coûte plus de 100 euros à faire fabriquer. Et après, on leur envoie, ils font des retours. Donc là, on avait sélectionné des ambassadeurs, ce qu'on appelle des ambassadeurs, qu'on a piqué le terme à Stone Meyer, qui faisait des caisses et qui est un peu celui qui a créé ça.
Qui a théorisé en plus vraiment comment réussir son caisse, même si c'est...
Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé que ce système-là, il était vraiment intéressant, parce qu'à un moment, bon, on a beau envoyer à des reviewers des choses, ça reste des gens ou des professionnels du jeu, et d'avoir à un moment des joueurs qui font jouer le jeu aussi dans des associations, sur des salons, etc., qui emmènent le jeu et qui vont faire des retours, qui vont nous dire des choses. Il y a des choses qui ont été très intéressantes dans les retours ambassadeurs, qui nous ont permis de faire évoluer, pas des règles, mais des façons de présenter des choses.
Des formulations ou quoi, ouais.
Et c'est très, très pertinent de se rendre compte que dans la règle, il y a un point qu'on a expliqué en creux, mais qu'en fait les gens ils comprennent pas, donc il faut mettre un texte précis. Et puis après ils ont fait des retours, ils mettent sur BGG, sur TrickTrack des détails de partie, et ça permet aux joueurs de se dire voilà, le gars il est, nous on lui dit pas de dire que c'est bien, vraiment ils sont libres, ils peuvent écrire qu'ils ont pas aimé, il y a pas de problème, mais voilà, souvent ils vont expliquer ça c'est bien, ça j'ai trouvé plus bizarre, et du coup c'est des retours qui sont plus nuancés et souvent plus intéressants pour le joueur qui peut se faire sa propre idée.
Et tu disais, ouais, il y a vraiment pas de soit tu en parles si t'as aimé, sinon on n'en parle pas. Quitte à ne pas dire on n'en parle pas en négatif, mais juste exprimer uniquement les avis s'ils sont positifs. Peut-être pas au point de dans certains jeux vidéo où on avait eu ça un moment sur YouTube où oui, dites du positif, je vous donne de la thune pour dire du positif. C'est un cas extrême que j'espère pas voir arriver dans le jeu de société, qui existe peut-être déjà, j'en sais rien, je m'en fous. De toute façon, ceux qui font ça, c'est des cons. Le côté plutôt justement, on vous demande pas d'en dire du positif, juste si vous avez pas aimé. Merci de pas trop en parler ou quoi. Non, il y a pas du tout.
Alors nous, ce que moi je leur ai écrit très clairement, je leur ai dit vous dites
c'est
ce
pas,
que vous
c'est
voulez.
C'est pas un contrat.
Non, c'est... non. C'est on vous envoie un jeu, vous dites ce que vous voulez. Par contre, si vous avez pas aimé, ne détruisez pas le jeu. C'est-à-dire, ne va pas sur tous les forums pour répéter systématiquement c'est nul. Mais de toute façon, il y a très peu de gens qui font ça. Et surtout pas dans des gens qui se présentent. Enfin, quand ils viennent en tant qu'ambassadeurs, ils viennent avec de la bienveillance. Donc s'ils aiment pas,
un peu comme ceux qui proposent la relecture de règles ou quoi, c'est pas dans le but de.
Mais dans l'ensemble. Je trouve que ça serait contre-productif de les forcer, enfin en tout cas de les empêcher de dire ce qu'ils ont pensé du jeu, parce que le premier truc, ce serait que le but, c'est que justement les joueurs puissent se faire une idée en se disant c'est des joueurs qui me parlent. Si ces joueurs-là, on les a forcés à dire du bien, tu perds le but premier du truc, qui est que
si
ça soit un avis libre.
Ouais, si les joueurs le savent, c'est ce qui se posait comme question sur les jeux vidéo. C'est justement aujourd'hui c'est plus transparent, mais à un moment on savait pas si c'était du truc rémunéré ou non. Est-ce que comme dans le jeu vidéo il y a des NDA, c'est-à-dire vous pouvez commencer à en parler à partir de telle date, etc.
Bah nous, à partir du moment où on leur envoie, ils font ce qu'ils veulent.
D'accord, ok. Il y a pas parce que dans le jeu vidéo il y a ça, c'est le test qui peut être publié avant.
Mais peut-être un jour on y viendra, mais pour l'instant on n'est pas à ce niveau-là de truc quoi. Ils en parlent pas. Enfin,
Il faut qu'ils aient l'objet en main, de toute façon, pour en parler.
Oui, sûr, mais c'est déjà, je dis ça parce que dans le jeu vidéo, ils ont le jeu en main, ils peuvent commencer à y jouer, néanmoins, et pour le coup, c'est des contrats, c'est, tu peux pas présenter telle image de gameplay, tu peux pas parler de ça, tu peux pas spoiler les trucs, avant telle date, tu peux pas faire ta preview avant telle date, c'est des trucs très précis et contractualisés pour le coup,
mais. Non, mais on en est pas là, mais voilà. Mais ça a été très positif, hein, il y a des ambassadeurs qui ont été vraiment, très actifs, et en fait, bon, sur la France, on en a eu plein et tout ça, mais sur la France, c'est un public qu'on connaît mieux, mais voilà, on en a eu un en Australie vraiment super actif sur Twitter, qui a fait des vidéos alors qu'il en avait jamais fait sur YouTube, voilà, qui s'est donné du mal parce qu'il a bien aimé le jeu. Il y a eu un Allemand qui s'est donné beaucoup de mal. Donc moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que sur des marchés où notre communication elle porte moins parce qu'on n'est pas des éditeurs natifs du pays et on est voilà encore des éditeurs jeunes, ça a permis d'avoir des retours de joueurs qui ont fait le travail de parler dans la communauté. C'est-à-dire que un Kickstarter australien qui se lance, bah s'il avait un ambassadeur en France, le mec irait en parler sur TrickTrack, sur Code, sur les différents forums. Et c'est des endroits où cet éditeur australien qui connaît même pas, il aurait même pas l'idée d'aller poster une info sur son jeu.
Et du coup, c'est vrai que ça a un coût pour vous. Est-ce que c'est quelque chose que parce que là, il y a le Kickstarter, donc l'idée, c'est aussi de faire parler du jeu avant pour que quand le Kickstarter se lance, les gens en aient entendu parler éventuellement d'une façon assez factuelle. Est-ce qu'il y aurait aussi moyen de faire ça justement pour les jeux du circuit traditionnel? Je sais pas, pour un par exemple, une semaine avant la sortie, pouf, vous pouvez.
Je pense que l'idée, alors c'est plus efficace sur les Kickstarter à mon sens, mais l'idée, je pense, c'est vraiment d'essayer de travailler ça pour tous les jeux.
Pour les boutiques, il y a finalement les gens en boutique qui sont là aussi pour ça, quoi, pour le conseil.
Oui, oui.
Alors que pour le Kickstarter, c'est moins le cas, il y a moins ce conseil.
Oui, 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 tout à fait. Non, mais après, le Kickstarter, c'est aussi que t'achètes un jeu que t'as pas la possibilité d'avoir essayé avant. Et donc, c'est bien quand même d'avoir un nombre de retours de joueurs et pas de professionnels reviewers qui sont pour la plupart payés en dehors de Rado. Enfin, je parle pour les Américains.
Ouais, ouais.
Il y a que Rado qui est gratuit, tous les autres ils sont payés, qui te dit que le jeu est bien ou pas, enfin ils disent qu'il est bien en gros quoi. Tu dois te faire ta propre idée, c'est toujours un peu compliqué. Donc là, je trouve que pour le Kickstarter, c'est d'autant plus important que t'as besoin de savoir ce que les joueurs en ont pensé. Après, tu seras peut-être pas d'accord, peut-être tu seras déçu, mais c'est à peu près le même niveau d'information que
après,
ce que tu peux avoir.
Après, à toi de choisir les joueurs avec lesquels tu te sens en affinité, hein. C'est
exactement
ce qui existe sur tous les produits culturels, c'est un tel parle de tel film, il le recommande. Ah bah je sais que j'ai des affinités, peut-être que je vais aller le voir. Donc ça c'est Netatanka, et après à la suite, je sais qu'il y a Demio.
Oui, donc là on a Netatanka, on a un jeu qui s'appelle Cerber qui sort en direct en boutique pour SN.
OK, donc c'est 1 sur 2, c'est une volonté
ou c'est
le hasard?
Bah les cas, c'est beaucoup de travail. Après ça dépend des projets, ça dépend. Je pourrais pas. Puis il y a des projets qui s'y prêtent mieux aussi. Si t'as pas de quoi faire des stretch goals, tu vas pas en faire des faux, quoi. Moi j'aime bien que le jeu il soit cool. Enfin qu'à la fin on livre pas n'importe quoi non plus.
Ouais, soit pas des stretch goals pour des stretch goals.
Quoi. Et donc on a Cerber qui sort en boutique, qui est un jeu de Pierre Buty, qui est
d'accord,
l'auteur de Sol,
okay,
qu'on fait en coédition donc avec Ori Games, et qui est un jeu de 3 à 7 joueurs, un jeu de compétition, je sais pas trop comment on appelle ça, où en fait on fuit tous les enfers poursuivis par Cerber qui est géré par le jeu. On part à un nombre, mais on sait que pour sortir, il n'aura qu'un nombre limité, parce qu'en fait, on prend une barque, et que la barque, on ne sait pas avant la fin, mais en tout cas, elle a qu'un nombre limité de place.
C'était un peu le pitch qu'il y avait dans The Scapegoat, le Alcatraz.
Oui, c'est vrai, ouais, vieux jeu.
À la fin, tu gagnais tous sauf un. Voilà.
Ah oui. Bah voilà, bah, alors là, c'est plutôt qu'il y a 1, 2 ou 3 places, donc si on part à 7, on sait déjà que ça va être compliqué, et en fait, la mécanique est très simple, tu vas jouer des actions, enfin, tu vas jouer des cartes, et tes cartes, en fait, soit elles sont moyennes pour toi, soit elles sont fortes pour les autres. Donc en fait, si tout le monde joue que pour soi, bah Cerber il va manger tout le monde. Si tout le monde joue que pour le groupe, bah il y en a qui vont se faire avoir. Et quand tu te fais manger par Cerber, enfin rattraper, en fait tu repasses dans le camp de Cerber et tu te mets à jouer en Cerber. Donc plus plus on sacrifie de gens aussi, plus il est balèze. Et tu peux gagner en Cerber évidemment. Donc je dirais que dans le feeling, c'est un petit peu quelque chose qui pourrait se rapprocher d'un Galerapagos sans le côté élimination, parce qu'on change de camp. Plus dans le côté, on va changer de camp.
C'est pas le loup-garou, tu te fais chier après, vrai.
Non, bon, voilà. Mais ça sort à SN.
Et illustré par?
Par Pierre Pless.
Donc ça, c'est effectivement, tu disais septembre-octobre par là?
Ouais, octobre pour SN. Ouais. Pour SN. Bon, il y a un Clash of Rage qui va être livré et arrivé en boutique à peu près sur la même période. Et après, pour l'année prochaine, donc on a le KS de Demio, qui est pour le coup un jeu de gestion, un gros jeu, qui est un genre de...
C'est sur quelle thématique, hein?
C'est sur de l'Uchronie Japon médiéval, donc un mélange de technologie et de Japon médiéval.
avec des sabres laser.
Non. Ouais, non, mais avec un peu un côté récup, un côté.
Ouais, un côté un peu steampunk.
Ouais, c'est pas post-apo, c'est entre le post-apo et le.
C'est le post-apo médiéval.
Voilà. Ouais. Et ça, c'est un jeu de draft 2D et de combo de cartes. Qui, du coup, est passé par des milliers d'étapes.
Il y a quelques émissions de Playtime spécifiques. Ouais. Il y en a une troisième que j'ai pas publiée, alors qu'elle est là depuis 2 ans, je crois, je l'ai. Ouais. Mais où on décrit un petit peu avec Jérémy, donc l'auteur, les différentes étapes du truc, où à la base c'était Alive.
Exactement.
Dans un univers post-apo avec un draft 2D qui a été remanié, qui a été mis de côté. Avant même ça, il avait, je sais plus le nom du proto.
Monster Factory.
Ouais, voilà. Enfin, il y a plein d'étapes par lesquelles il est passé. Et où du coup, il y a un moment où vous en discutiez sans que ce soit contractualisé. Où tu disais qu'effectivement, aujourd'hui, tu ne le re-signerais pas dans l'état où tu l'as signé à l'époque.
Tout à fait.
Et ouais, où
il y a eu. Après, Jérémy, donc ouais, j'ai signé très tôt son jeu parce que j'étais un jeune éditeur et que c'était une erreur fondamentalement. Je l'ai signé avec un pourcentage bas.
Et t'avais revu
et donc j'ai revu les contrats plus tard pour qu'ils soient comme tous mes auteurs. Et maintenant Demio, c'est un jeu auquel on croit beaucoup pour l'année prochaine. On travaille encore dessus.
On travaille dessus depuis plus de 2 ans, quoi.
Oui. Enfin, en développement, c'est un gouffre financier qui est vraiment énorme. Après, on espère que voilà, le jeu il plaira et qu'il marchera. Mais aujourd'hui, moi, j'en suis vraiment content de ce jeu. Autant il est passé par des étapes difficiles, mais je crois que c'est ce qu'on s'était dit la dernière fois qu'on en a parlé. Ouais. Là, de plus en plus, il prend la bonne direction.
Ouais, c'est ça, mais c'est voir le travail de développement que ça peut être pour l'auteur, pour l'éditeur, etc. Ça reflétait ce que tu disais, les discussions avec l'auteur, etc. Où là, il y a vraiment eu pas mal de choses. Et au niveau de l'illustrateur, c'est
Dimitri
Chapuis, c'est ça, ouais. Et donc là, vous approchez quand même de la finalité de ce que doit être le
ouais,
jeu.
Alors, ouais, alors il reste des illustrations à faire parce qu'on n'a pas les plateaux, tout ça. Au niveau de gameplay, on est très très proche. La mécanique principale, elle est bloquée, c'est sur les scorings où on travaille pour qu'ils soient plus fun certains, parce qu'il y en avait qui étaient un peu mécaniques. Mais voilà, globalement, il est quand même bien bien avancé. On espère le finir, on va dire, mécaniquement pour septembre, finir les illustrations et pouvoir faire un Kickstarter quand on aura livré Neta Tanka, etc. Enfin que voilà, prendre le temps.
Il n'y a pas la volonté de faire plusieurs Kickstarter alors que l'un n'est pas livré. Vous essayez d'attendre à chaque fois qu'un produit soit fini pour...
Ça dépend en fait. Bah, par exemple, là, on fait Neta Tanka alors qu'on n'a pas livré Clash of Rage. Ouais. Mais dans l'ensemble, l'idéal, c'est quand même de livrer le précédent, ne serait-ce que parce que ça te permet de finir quelque chose pour commencer une nouvelle chose. Mais voilà. Donc là, Demio, il ne démarrera pas avant qu'on ait livré Neta Tanka. Et puis,
D'autant que ça peut s'adresser pour le coup à peu près au même
public.
Oui,
c'est pour ça. Ouais. On aura Outlive, on aura Neta Tanka, on aura Demio. C'est créer une espèce d'habitude autour de ce type de jeu. Alors après, ils sont très différents les trois, mais.
Ouais, bien sûr, mais au niveau du public visé, ça peut être potentiellement un peu le même.
Ça sera votre gamme KS.
Ouais, voilà, c'est du gros jeu qui nous coûte cher en développement. Enfin voilà, parce que Demio, c'est quand même un jeu qui, en termes de matos, qui sera un peu dans un genre de site. C'est-à-dire, il y a des figurines, même si ça reste comme site, c'est-à-dire, il y a du bois et de la figue.
Ouais, ouais.
Enfin, comme un peu Outlive. Ça reste un produit qui est cher en développement, qui a pris beaucoup de temps. Donc là, il y a vraiment besoin de le rentabiliser sur un Kickstarter.
D'accord. Et du coup, ça, c'est 2019. Ouais. J'imagine que c'est déjà bouclé aussi pour la suite de 2019.
Oui, bah là, on a quasiment toute notre ligne, enfin nos jeux à sortie, ils sont bouclés jusqu'en 2020.
Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et il est trop tôt pour en parler de toute façon.
Oui, et puis parce que c'est vraiment pertinent, tant ça peut changer. Ça arrive. Il y a des jeux qu'on a déjà signés et abandonnés, ça arrive aussi. Même si c'est dur humainement avec les auteurs, c'est qu'on peut jamais être sûr de les conserver. Enfin, 2 ans à l'avance, c'est compliqué de savoir ce qu'on fera d'un jeu.
Une question à part ta traditionnelle.
Est-ce que t'as déjà mangé ta bretzel aujourd'hui?
Eh, j'aime pas trop les bretzels.
Ah
alors.
Oui, c'est vrai. Oh là là.
Non. Du coup, j'en ai pas mangé.
D'accord. Bah écoute.
Tu sais pas ce que tu loupes.
Hein. Ah ouais.
C'est pas grave.
Eh ben, merci de ta participation.
Merci à vous.
Bon après-midi.
Bon après-midi.
Salut. Salut.